Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Merci beaucoup à ma collègue Marie-Claude Lavallée qui était avec vous hier. On a pas mal de choses aujourd'hui. On va parler d'emploi payant là, dans la prochaine heure. En deuxième heure d'émission, là, vous allez voir, c'est drôle parce que c'est quasiment un spécial emploi, job, travail, économie aujourd'hui, parce qu'on va parler des jobs à 25 $ de l'heure tels que promises par le nouveau premier ministre du Québec, François Legault. Évidemment, comment s'y prendre pour créer des emplois payants, c'est ça qu'on va voir avec nos invités. En deuxième heure, ben là, ça va être un entrepreneur qui est en affaires, qui va nous dire pourquoi lui, il a décidé, après plein d'essais, puis il y a eu des très, très bonnes entreprises, il y a eu des entreprises qui ont été moyennes, d'autres qui ont moins marché. C'est ça la vie en entrepreneuriat. Mais il va nous raconter tout à l'heure en deuxième heure d'émission qu'il a décidé de quitter le Québec. Ça fait plusieurs fois que ça lui passe par la tête. On en avait un peu parlé ici. Frédéric Proulx a décidé effectivement de déménager pour de bon, en tout cas pour les prochaines années, d'essayer sa chance en Asie où apparemment l'air ambiant, plus pollué peut-être, mais semble plus propice aux affaires. On aura donc cette discussion avec lui tout à l'heure et on terminera l'émission avec un libraire pas comme les autres qui va nous dire c'est quoi ces livres qu'on doit, que vous devez absolument lire? Au cours d'une vie, il y a des livres qu'il faut lire. Tu t'en sors pas. Il y a des livres, c'est des classiques. Moi, j'essaie de le dire à mes jeunes, il y a des classiques. Tel livre, c'est un classique, faut que tu le lises. Tu ne l'aimes pas, force-toi. Il y a ça. On va lui demander c'est quoi ces livres à lui qui doivent faire partie de notre bibliographie et quels sont les livres qui vous ont marqué, vous? J'aurai l'occasion de vous poser la question. Mais donc, en feuilletant les pages ce matin dans les journaux, en regardant un peu sur Internet, il y a d'abord beaucoup d'annonces d'entreprises qui s'installent en région aussi, qui vont venir. On pense à CGI, par exemple, qui va ouvrir un autre centre technologique en région. On pense aussi aux offres d'emploi dans les pages offres d'emploi, là, juste ce matin. Là. La semaine dernière, j'en ai gardé une parce que c'est intéressant. C'est une offre d'emploi où on cherchait une infirmière responsable d'unité de soins 20 lits dans un genre de centre un peu comme CHSLD, mais privé. Une infirmière responsable, soins 20 lits. 20 lits, une personne, je me disais, ah, c'est quand même pas mal de monde à s'occuper, à changer les couches, puis à faire manger des patates pilées. Mais tout ça pour dire que si vous voulez du travail en ce moment, il y en a. Il y en a tellement qu'on est en pénurie d'emplois. Je sais qu'il y a des gens qui croient pas à ça, qui doutent encore que c'est le cas, mais mes invités le répètent. Puis on peut en repasser une petite couche ce matin, n'est-ce pas, Martine Hébert?
Oui,
bonjour,
oui,
merci
bonjour.
D'être là. Vice-présidente principale à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Maxime Villemur est président directeur général de Sharebee.ca. Merci, Max, d'être avec nous.
Ça fait plaisir.
Sharebee, qui est un peu le Airbnb de l'entreposage.
Exactement.
Et vous, vous êtes un jeune entrepreneur qui veut développer l'entrepreneuriat ici, qui veut faire des affaires, qui veut engager du monde. Et ce sont des emplois que vous voulez, pas au travail, au salaire minimum, mais pour des travailleurs qui gagnent un bon salaire, là.
Effectivement, mais nous, dans le secteur des technologies, ce que j'ai remarqué de mon expérience, c'est que le salaire moyen est un petit peu plus élevé, justement, là, que le salaire minimum.
C'est-à-dire, vous partez ça à combien, vous?
Ça dépend des entreprises, puis justement, la capacité de payer, mais normalement, ouais. On parle 20-25 $ de l'heure. Ouais.
Donc, c'est possible. Jessica Joyal et chasseur de tête. Merci, Jessica, d'être là.
Allô, Isabelle.
Des emplois à 25 $ de l'heure, évidemment, François Legault nous a dit cet été, chiffres et graphiques à la pluie. Regardez, au Québec, on a perdu des plumes au cours des dernières années. Je regardais encore les chiffres. Il paraît qu'on a perdu cet automne 55 000 emplois à temps plein. Évidemment, on se rappelle le fait qu'il y a quand même à peu près 200-250 000 Québécois qui travaillent au salaire minimum à 12 $ de l'heure. Tout ça, là, quand on considère tout ça, c'est le contexte. Jessica, est-ce que dire c'est des jobs à 25 $ de l'heure qu'on veut, penser les créer, est-ce que c'est facile comme ça?
Bien, facile, probablement pas, mais je pense qu'à quelque part, on se doit un peu de faire un virage au niveau des organisations et de focusser sur des choses. Il faut qu'on focus comme province là, sur l'éducation, puis dans les entreprises, sur le développement des compétences des employés. Moi, de ce que je vois là, au niveau des individus, si on veut améliorer notre taux horaire, notre salaire, on se doit de penser qu'on doit avoir un plan de développement, de formation, des formations d'appoint régulièrement. On doit devenir multitâche. Mm-hmm. On doit on doit acquérir un petit peu plus de compétences. Et c'est évident que dans les organisations, là, on essaie d'avoir des gens qui sont comme ça pour parce qu'on veut restructurer, on veut avoir des gens compétents, on veut avoir des gens productifs, on veut avoir des backups entre les employés. Donc, il faut qu'on aille se chercher de la compétence. T'sais, aujourd'hui, je pense que de faire juste une chose dans une organisation, là, c'est pénalisant pour cette personne-là. Mm-hmm. Puis si elle veut espérer augmenter son taux horaire, ça va être très, très, très difficile.
Martine Hébert, créer des emplois à 25 $ de l'heure au moins, là, mm-hmm. c'est devenu le salaire minimum dans la tête de François Legault, c'est-à-dire pour des emplois d'une certaine qualité aussi. Il parle beaucoup de la qualité du travail. Ouais. Comment tu vois ça, Martine?
Ben écoutez, Isabelle, je vous dirais que la bonne nouvelle ce matin, là, c'est que le salaire horaire moyen au Québec, au moment où on se parle, il est à 25 $ de l'heure à peu mm-hmm. près. Là, j'ai sorti les données, là, 24,94 à la fin de 2017. Donc, on a probablement, au moment où on se parle, là, dépassé la barre des 25 $ de l'heure. Fait que ça, c'est le salaire horaire moyen. Évidemment, on parle d'une moyenne, donc c'est pas dans tous les secteurs d'activité où on va atteindre le 25 $ de l'heure. Il y a certains secteurs comme le commerce de détail, par exemple, où là, ben, il est plus autour de 15 $ de l'heure, c'est-à-dire de 19 $ de l'heure, l'hébergement, la restauration, à peu près 15 $ de l'heure. Donc, c'est sûr que ça varie. Les autres technologies comme monsieur, on va être plus autour du 30, tu sais. Donc, c'est clair que, par contre, du point de vue du travailleur, c'est sûr que si le travailleur veut accéder à des meilleurs salaires, Jessica a parfaitement raison de dire, regarde, ça prend de la formation. Puis, il faut aussi que l'aide gouvernementale permette aux entreprises de pouvoir donner de la formation à leurs employés, peut-être un peu plus réorienter cette aide-là pour soutenir les entreprises dans la formation de leurs employés. Parce que la PME, là, elle a beau dire « j'aimerais ça former mon monde », mais tu sais, elle ne sait pas nécessairement, elle, où aller trouver les ressources pour le faire. Elle n'a pas nécessairement...
Et ça coûte de l'argent aussi.
C'est ça, elle n'a pas nécessairement non plus les moyens pour le faire. Elle n'a pas nécessairement non plus le bon diagnostic à savoir c'est quoi les formations qui existent là, qui permettraient à mes employés justement de devenir multitâche en entreprise, de pouvoir, et moi aussi, de pouvoir combler plus de besoins pour mon entreprise avec ce même travailleur, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.
C'est ça. Parce qu'il faut au lieu d'augmenter son nombre d'employés dans l'organisation, de repartager les tâches qui sont à faire, puis entre qui on pourrait le faire.
C'est ça qu'on appelle en économie augmenter la productivité.
Oui.
Hein? Donc,
c'est ça.
Tu peux le faire avec tes travailleurs, mais tu peux le faire aussi en automatisant certaines fonctions et en formant tes travailleurs, justement, sur le fonctionnement de ces équipements-là, comment les entretenir, etc. etc. Donc, c'est une des avenues à emprunter.
Maxime?
Oui, c'est un bon point. Puis, pour renchérir sur le point, justement, je pense que la formation continue. Personnellement, je crois qu'il y a énormément de ressources disponibles en ligne et la majorité est gratuite. Je vais parler pour mon secteur, le secteur des technologies. C'est un secteur qui est souvent ce qu'on appelle en anglais « open source ». Donc, les gens partagent énormément les connaissances. Je peux vous donner un exemple. Mon cofondateur, plus de 10 ans d'expérience en développement web, puis il a appris tout ça par lui-même. Donc, je pense si justement, s'il y avait de l'aide financière, capacité de nos moyens de offrir de la formation, continue.
Ça, c'est un bon point. C'est de la formation informelle dont tu parles. Les programmes qui existent à l'heure actuelle vont soutenir de la formation formelle. Tu envoies quelqu'un sur un banc d'école pendant X temps. Moi, je pense qu'il faut que les programmes soient de plus en plus axés vers la formation justement informelle
le e-learning,
comme ça.
Tout ça.
En ligne, au sein
le
de l'entreprise.
E-learning, tu dis, Jessica? Oui. Ouais. C'est quoi
donc,
ça?
C'est toutes des formations que tu peux aller te chercher justement à distance puis que tu fais à ton rythme. Autant que tu peux y consacrer. C'est ça qui est extraordinaire. Tu sais, tu peux même allouer du temps à un employé de dire, regarde, au lieu de finir à 5 heures, tu finis à 3 heures, puis garde, fais-le. Tu sais, si la personne dit, je peux pas le faire rendu chez nous, j'ai les petits, puis il faut que je fasse la souper, puis il faut que je donne les bains. C'est à l'avantage de l'employé et de l'employeur. Puis, c'est un facteur de rétention aussi chez l'employé.
Ouais. Mais les patrons aiment bien gérer, aiment bien avoir des formats, c'est-à-dire aiment bien avoir le contrôle aussi. Ils veulent savoir comment mesurer la productivité dans leur entreprise. Ils veulent savoir combien d'heures leur employé a travaillé ou combien de jours. Si t'envoies tes employés, t'en as, tu les mets en télétravail, l'autre batch, tu leur dis tu fais du e-learning chez vous. Là, à un moment donné, là, tu vas être tout seul au bureau, puis il y a beaucoup de gens qui... non, mais c'est ça, il y en a qui se disent...
Mais c'est sûr qu'il faut, ça prend un engagement de l'employé. T'sais, l'employé aussi, il faut qu'il en fasse
son comment tu mesures ça, l'engagement? C'est ça
qui prend des outils.
Maxime, toi, t'as 30 ans, toi, t'as un certificat en philosophie. Je trouve ça fascinant. Et t'es devenu président directeur général d'une petite entreprise en techno. T'as appris comment?
Principalement par moi-même. Donc, justement, à travers ces plateformes-là, je trouvais souvent que ça allait pas assez vite à l'école. Donc, je me débrouillais moi-même. Puis, c'est ça, les connaissances sont disponibles en ligne et souvent gratuitement. Puis les outils maintenant nous permettent de faire des suivis. Donc c'est possible de savoir, par exemple, un employé qui a fait un certain entraînement en ligne, et il y a même des tests qui sont disponibles, qui sont fournis par ces plateformes-là. Donc, il y a une façon de mesurer le résultat aussi. Donc, pour faire face, suite à votre commentaire, pour mesurer la performance, c'est l'idéal, en fait. Mm-hmm. Puis l'employé peut le faire quand il veut, où il veut, puis c'est mesurable.
Mm-hmm. Tout à fait, c'est ça. Je pense qu'il faut mettre en place des indicateurs qu'on appelle là, de performance et ouais. de mesure, là, de l'atteinte mm-hmm. des objectifs, c'est clair. Je pense que... Mais il faut quand même se dire... Tu sais, la question de départ, Isabelle, que vous avez posée est très pertinente. On a dit, comment on fait pour créer des jobs à 25-30$ dans une économie? Puis la formation, c'est un volet, mais il y a aussi plusieurs autres poignées que le gouvernement a pour pouvoir faire en sorte qu'on aura plus de jobs à 30$ par 40$.
OK, et, par exemple,
ben, on a parlé de l'aide gouvernementale en matière de formation, il faut mieux l'orienter, mais l'aide gouvernementale, en général, il faut mieux l'orienter. Le Québec, on est la province qui donne le plus de subventions et de crédits d'impôt aux entreprises à l'échelle canadienne, en proportion de notre économie. Là. C'est de l'aide ciblée. Souvent, il y a des programmes même qu'on a mis en place. On l'a vu avec le fameux rapport Robillard qui avait été fait il y a plusieurs années. Il y a des programmes qu'on a mis en place il y a plusieurs années qu'on n'a jamais revisé. On n'a jamais mesuré l'efficacité de ces programmes-là. Puis ils sont encore en place, ces crédits d'impôt.
Et ils devraient plus?
Ben, ils devraient
comme
plus.
Par exemple, nommez-en un.
Ben, on a parlé beaucoup du. Puis je vais me faire pitcher des roches à matin, mais c'est pas grave. Je vais dire, je suis économiste. Il faut quand même que je
prends
dommage à ma profession. Ouais. Beaucoup dans le domaine là, des jeux vidéo et tout ça, hein, on a attiré des emplois avec des crédits d'impôt. Puis je dis pas que cette industrie-là est pas bonne pour Montréal, puis elle a pas été bénéfique pour le Québec, mais est-ce qu'il y a peut-être lieu de reviser...
Tu penses à Ubisoft, par exemple, qui est une entreprise qui marche très, très, très bien.
Mais qui marche très bien, mais qu'en même temps, moi, je connais des plus petites entreprises, des PME, qui, elles, n'ont pas accès à ces crédits d'impôt-là, mm-hmm. qui se font voler des travailleurs par ces entreprises-là. Tu sais, fait de dire, est-ce qu'on doit tirer la plogue complètement? Je pense pas. Je dis pas qu'il faut pas soutenir des industries, puis je dis pas qu'il faut arrêter de soutenir Ubisoft, là, c'est pas ça que je dis.
Ouais.
Mais faudrait peut-être regarder, analyser ces programmes-là. Est-ce qu'ils ont l'efficacité vraiment qu'on voudrait avoir? Puis est-ce que cet argent-là serait pas mieux investi autrement? Pendant qu'on fait ça, pendant qu'on donne un paquet de subventions puis crédits d'impôt aux entreprises, on tient nos PME québécoises dans le système fiscal et réglementaire le plus lourd au pays. Autrement dit, pour donner des subventions, des crédits d'impôt à quelques entreprises, on tient l'ensemble de nos PME au Québec, qu'on sait que c'est la majorité de l'économie, avec une fiscalité la plus imposante. Nos PME au Québec sont celles qui payent le plus d'impôts au pays. Une PME au Manitoba, là, elle paye 0% d'impôts.
Es-tu sérieuse?
Oui, je suis tout à fait sérieuse. Elle paye 0% d'impôts provincial au Manitoba.
Parce qu'ils ont compris que c'est ça qui faisait travailler le monde.
Exactement. Ouais. Fait que, tu sais, tant qu'on ne libérera pas le potentiel, justement, des entreprises là, pour dire, ben garde, moi, là, je voudrais bien augmenter le salaire de mes employés, mais je n'ai pas cet espace-là, je n'ai pas de marge de manœuvre, ben c'est sûr que ça ne fonctionnera pas.
C'est ton domaine, Maxime, la technologie. Est-ce que toi aussi, quand tu vois qu'Ubisoft, puis on parle de ça là, mais je pourrais dire CGI ce matin, là, on apprend là, qu'ils vont s'installer à Drummondville. Ça va être un autre établissement, leur septième. Ils sont installés déjà à Saguenay, Sherbrooke, Québec, Shawinigan, Montréal, Gatineau. Bon, là, Drummondville, c'est sûr que la Société de développement économique de Drummondville est allée sans doute faciliter les choses.
Les séduire.
C'est ça qui est fascinant au Québec. En lisant ça ce matin, je me disais, bon, ça a dû encore se tirer. Ici, au Québec, on est bon pour tirer la couverte. On tire, puis on espère faire trébucher l'autre, puis l'avoir dans notre gang. Ce matin, les gens de Drummondville, bravo pour eux, mais il y a du monde de Montréal, probablement, ou d'autres centres au Québec qui doivent se dire... On l'a raté, ils sont allés à Drummond. On est tous en compétition, on dirait, alors qu'il faudrait une vue d'ensemble où toutes les régions puissent chacune...
Aurait le potentiel, oui, tout à fait, d'attirer ça. Absolument.
Et non pas d'être en guerre, mais bon, puis, ça, c'est un peu un autre débat.
Au niveau des subventions, il faudrait aussi que ça l'aide la PME, parce que c'est tout le temps la grande entreprise.
Oui, c'est ça.
Je pense que réduire la barrière à l'entrée aux outils dont Martine mentionnait.
C'est GI, je ne suis pas sûr qu'ils ont besoin vraiment d'argent tant que ça.
Puis, tu sais, M. Legault, non, Maxime?
Écoutez, je vais aller laisser commenter là-dessus.
mais ils ne feront pas. M. Legault, là, il a parlé de réorienter Investissement Québec, puis je pense qu'il a raison.
Ouais.
À quelque part, là, faut sortir le monde des bureaux parce que de penser que les entrepreneurs, là, la petite entreprise de transformation alimentaire, mettons, en région, là, qui voudrait augmenter sa production ou celle qui fabrique des produits métalliques puis qui voudrait augmenter sa capacité de production parce qu'actuellement, elle doit refuser des clients parce qu'elle trouve pas de main-d'œuvre, bien, si elle va sur le site d'Investissement Québec ou ça frappe à la porte d'Investissement Québec, là, ça prend quasiment un doctorat en paperasserie gouvernementale pour comprendre comment ça marche puis qu'est-ce que
c'est. Puis je pense...
Les seuils sont très élevés. Il faut que ces gens-là d'Investissement Québec sortent, aillent cogner à la porte des entreprises, disent « Hey, on peut t'aider. Oui. » C'est quoi tes... Tu sais, l'entrepreneur, lui, il est pogné dans son quotidien. Il ne sait pas c'est quoi le nouvel équipement qui pourrait y permettre justement
d'augmenter sa productivité. C'est sûr. Mais en même temps, puis, bon. L'équipement-là, t'es rendu dans le manufacturier. Il n'y en a pas tant que ça du monde qui veut se partir de la business en manufacturier. Tu peux tellement manger tes bas vite.
Oui.
Puis là, je vois le projet de François Legault avec l'Investissement Québec, c'est intéressant parce qu'il dit, on veut que ça devienne un guichet unique pour tous les entrepreneurs du Québec avec des projets d'une certaine taille, moyenne à grande, t'sais, des projets de moyenne ou grande envergure. Mais ça, il faut déjà que tu aies du fond, il faut déjà que tu aies un peu de cash.
Ben, c'est ça, il faut miser sur
alors,
la
petite
entreprise.
Alors, toi, une petite idée, là, toi, tu vas pas avoir Investissement Québec, tu vas voir qui? Tu vas aller voir ta banque
c'est là l'erreur.
Va prendre ta maison, ton garage, l'auto que tu n'as même pas fini de payer.
Il y a aussi le capital de risque qui peut aider souvent les jeunes pousses.
Oui, c'est justement... Moi, Isabelle, là, la semaine dernière...
Mais les capitales de risque, Maxime, ils vont prendre une partie de ton entreprise.
Oui, mais
moi, je peux vous dire, parce que je connais pas pire le dossier, au bout de 5 ans... Rares sont les entrepreneurs fondateurs qui sont encore majoritaires dans leur entreprise. Et c'est malheureux, je trouve.
Mais ce qui est important, je pense, sur ce sujet-là, c'est vraiment de se faire partenaire avec des gens qui sont alignés avec la vision de l'entreprise.
Qui sont des vrais mentors.
Exactement, c'est ça.
Pas qui sont là pour faire plus d'argent que toi, tu vas en faire.
Exactement.
Ouais. C'est un méchant problème, ça.
Il y a pas...
faut magasiner.
Ouais. Puis c'est dur de trouver... Moi, là, par pur hasard, là, la semaine dernière, j'ai assisté à un congrès de femmes essor qui ont un gros portefeuille d'argent, millions que je ne savais pas, qui donnent à des jeunes entreprises, des petites, des PPE là, au niveau des femmes. Puis j'ai été surpris de voir, je pense au-dessus de 20 millions, qui donnent à des gens pour pouvoir se partir une entreprise. Mais tu sais, c'est méconnu, Isabelle. Puis il y en a plein comme ça pour les petites entreprises. Mais on n'a pas
mais
le temps
c'est
de
ça, chacun travaille
aide,
dans son silo.
Exact, c'est ça. Emploi Québec a ses subventions.
C'est ça.
Le ministère de l'Économie a ses subventions. Le ministère de l'Éducation a ses subventions.
Puis là, tu parles au Québec, mais tu as le fédéral, la BDC.
Écoute, moi, je patauge là-dedans à longueur d'année, puis je suis tout mêlé.
Imagine l'entrepreneur qui a une bonne idée. Tu sais, quand tu es un entrepreneur, tu peux avoir une bonne idée. En général, tu n'as pas d'argent puis tu n'as pas de temps. C'est-à-dire, tu as besoin des deux en même temps. Tu as besoin d'argent puis tu as besoin du temps. Puis le temps, là, c'est de l'argent, on le sait, mais on le dit puis c'est vrai, ça. Tu as besoin de partir ton entreprise tout de suite, pas dans 6 mois d'attendre le permis qui va arriver finalement l'année d'après.
C'est un bon point. Puis je pense que la lourdeur administrative, justement, pour avoir l'accès à des outils comme, par exemple, des plus grandes entreprises ont, c'est sûr que ça aiderait énormément les PME.
On va aller à la pause là-dessus. On jase. On a hâte de vous entendre, chers amis, là-dessus. Dites-moi comment vous voyez ça, vous, la création de jobs à 25 $ de l'heure. On en veut, c'est sûr. Comment s'y prendre pour les créer, ces emplois payants? Je retiens quand même ce que Martine Hébert nous disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en ce moment, au Québec, le salaire moyen, c'est 25 $ de l'heure à peu près. Donc, c'est quand même pas si mal. En même temps, il faut regarder notre situation. Puis les chiffres sont... Oui, on semble dire qu'on est à un taux de chômage...
Le plus bas.
Très bas.
Très bas.
C'est le plein emploi.
Oui. En même temps, il y a beaucoup de monde qui cumule des jobs à temps partiel. Il y a beaucoup... Puis c'est intéressant, ce matin, on y reviendra. On dit aussi qu'en ce moment, la pénurie de travailleurs est beaucoup due au remplacement. C'est-à-dire, il y a les congés parentaux. Les Québécois ont compris que le congé parental, c'est intéressant, fait qu'ils le prennent. Mais ça, ça crée un problème dans les entreprises de plus en plus. Donc, on va parler un peu de tout ça. Moi, je veux avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'on en a besoin de plus? Est-ce que pour l'instant, ça va? Est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à aller en région aussi, partir des entreprises? Si on vous aidait, avez-vous des idées d'entrepreneuriat? C'est un peu tout ça, notre discussion de ce matin. 514-790-9850 et sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. On parle de la situation de l'emploi au Québec aujourd'hui, puis on se pose la question. François Legault, le nouveau premier ministre du Québec désigné, nous a promis des jobs. En tout cas, son intention, c'est vraiment d'augmenter la richesse, de créer de la richesse. Vous savez cette phrase-là qu'on dit là, depuis des lunes? Lui, il dit, il faut en créer. Ce qui va faire qu'on va s'enrichir, c'est d'avoir des jobs plus payants. C'est intéressant, effectivement. On en veut, mais comment on fait pour créer ces emplois-là? On a Martin avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, Isabelle.
On vous écoute, Martin?
Alors nous, demain, on est à Montréal, à la Foire de l'emploi. On a une délégation de 17 entreprises de Drummondville, plus de 500 jobs. Nous, ce qu'on souhaite, c'est amener les Montréalais aussi en région et dire aux Montréalais, regardez ce qui se passe en région. Si vous n'avez pas d'emploi, il y a des emplois payants. Et on a 17 employeurs qui vont être à la Foire nationale de l'emploi à Place Bonaventure. On a même réservé 17 autobus pour amener ces gens-là deux semaines plus tard à venir visiter ces entreprises-là. Donc, on va être assez agressif dans les prochains mois pour dire aux gens du Québec, aux gens de Montréal, entre autres, qu'il y a des emplois payants en région. Nous autres, on est chanceux. On a eu CGI hier qui a annoncé 300 emplois de Drummondville.
Ouais.
Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais 300 emplois de Drummondville, c'est 2500 jobs à Montréal. Hein?
Ouais.
L'impact économique de ça. Donc, ce qu'on souhaite...
Attendez, comment vous dites ça, Martin? Vous dites le fait d'avoir 300 emplois à Drummond, ça amène aussi 2500 emplois à Montréal? Est-ce que c'est ça que vous dites?
Non, c'est comme si c'était une annonce de 2500.
C'est l'équivalent de 2500 emplois. Oui. OK, ouais, je comprends.
Oui, absolument. Ouais.
Mais justement, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure mon commentaire où je disais... Malheureusement, c'est comme si toutes les régions du Québec sont un peu en espèce de porte-à-faux, ou en tout cas presque en... en compétition, effectivement, en compétition, j'allais dire en guerre, mais je cherchais un mot plus doux quand même. Compétition est le mot juste, merci Martine Hébert. Vous êtes quand même en compétition, toutes les régions du Québec veulent tirer la couverture de leur côté pour avoir des emplois, puis c'est pas une critique, là, c'est un constat. Êtes-vous d'accord avec le fait que c'est sûr que c'est vous êtes d'abord et avant tout pro-Drummond, puis les autres qui s'arrangent?
Ben écoutez, c'est sûr que faut le faire avec des gens d'affaires, des projets, des vrais projets. Nous, on a plusieurs plans d'action. On va même recruter en Tunisie des travailleurs, puis au Maroc, puis en France.
Ouais.
Mais une chose qui est sûre, c'est qu'au Québec, on est 8 millions. Il y en a à peu près 4 millions qui demeurent dans la même ville. Alors nous, ce qu'on souhaite, c'est l'occupation du territoire et dire aux chômeurs, entre autres, là, c'est l'opération qu'on va faire à Montréal dans les deux prochains jours.
Ouais.
Regardez ce qui se passe à l'extérieur. Puis il y a des emplois partout sur le territoire québécois. Et le problème, c'est que si on ne compte pas ces emplois-là, notre crainte, c'est que les employeurs décident de cesser d'investir.
Parce qu'ils n'auront pas de main-d'œuvre.
Parce qu'ils doivent refuser des contrats. Ouais. Il y a des manufacturiers au moment où on se parle au Québec qui refusent des nouveaux clients ou des contrats.
Parce qu'ils disent qu'on n'a pas les bras.
On a des restaurants qui ferment plusieurs jours par semaine.
Mais la restauration, c'est une chose,
Non, mais qui n'ont pas de main-d'œuvre non plus. On a des hôteliers qui fonctionnent juste à 50% de leur capacité parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre.
Martin, ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas le choix d'aller recruter donc à l'étranger dans des bassins francophones en France. Et au Moyen-Orient, là, ou en Afrique du Nord?
Non, on n'a vraiment pas le choix. Il y a des métiers au Québec qui gagnent plus que 25 $ de l'heure. Je pense entre autres à des machinistes, à des soudeurs, à des camionneurs. Un camionneur, là, ça peut faire jusqu'à 60 000 $ par année, 70 000 $ par année.
Ouais.
Et c'est des postes qu'on n'a plus. Alors, on n'a pas le choix. Les écoles sont vides de ces travailleurs-là. Donc, on n'a pas le choix d'aller chercher à l'étranger pour être capable de garder les investissements dans nos territoires.
Êtes-vous de la Société de développement économique de Drummondville ou d'une entreprise privée?
Oui, je suis de la Société de développement économique de Drummondville.
Bon, ben écoutez, on vous attend demain à Montréal. Bienvenue. On aime ça de la belle visite. Merci Martin, c'est intéressant vraiment.
Et bravo.
Oui,
bravo.
Puis il faut que les régions sortent leur épingle du jeu en même temps. Comment on pourrait faire pour je sais pas avoir une espèce de moi j'essaie d'unifier les régions. Je trouve que ça serait bien si tu sais que des régions puissent travailler ensemble puis avoir des projets multirégionaux
C'est sûr que ça il faut aussi
une vision.
Oui, ça prend une vision globale puis ça prend aussi des politiques qui permettent aux régions d'être moins en compétition les unes avec les autres.
Et comment on fait ça?
Ben tant qu'on va tenir les cordeaux trop serrés de l'immigration des travailleurs dans certains secteurs entre autres des travailleurs étrangers là qui peuvent pas venir ici parce qu'ils ont pas de diplôme universitaire puis même s'ils ont des offres d'emploi dans leurs mains, signés par des employeurs qui ne peuvent pas s'en venir au Québec parce que le système d'immigration ne leur permet pas de venir, bien, c'est sûr que là, à chaque fois qu'il y en a un ou deux qui va pouvoir rentrer, les régions vont se l'arracher.
C'est ça.
Donc,
ils vont les chercher, qui nous dit Martin.
Carrément. Ils vont les chercher.
Ouais. Puis je pense que là-dessus, on en a déjà parlé ici.
Oui.
Au niveau de l'immigration à Québec, là, ils sont ouverts à ça. Quand tu vois là, que tu as un travailleur étranger,
absolument,
que tu peux, ils vont faciliter l'arrivée.
Parce qu'il y a un projet pilote à Québec.
Ouais.
Dans la ville de Québec, en fait, ils ont mis en place un projet pilote là qui permet justement avec la France, qui ont permis aux entreprises de pouvoir attirer des travailleurs dans, avec un ce qu'on appelle en bon français un fast track,
voilà,
une voie rapide.
Ouais, la voie rapide existe. Oui. On va aller à la pause. J'ai Mathieu qui m'écrit. Il a perdu son emploi à 25 $ de l'heure. J'ai un bac. Je suis à la recherche d'un emploi. J'ai remarqué que les entreprises veulent un employé déjà formé, tout inclus, qui va être prêt à travailler, à être fonctionnel le lendemain matin. Il dit, moi, je dois suivre une autre formation. Mon bac classique n'est plus à l'ère du numérique. Il trouve ça difficile. Évidemment, Mathieu ne me dit pas quel âge il a ni dans quel domaine il est. Mathieu, si vous pouvez me donner cette information-là. Ou carrément nous appeler, 514-790-9850. Ça va nous faire plaisir de vous parler. 1-866-790-9850. S'il y a du monde qui s'en vient à la Foire nationale de l'emploi demain, effectivement, c'est à la Place Bonaventure. Ça va être demain et après-demain. Donc, jeudi et vendredi, c'est vraiment une espèce de grand événement rassembleur pour faire en sorte d'amarrer les entreprises et ceux qui se cherchent des emplois. Je pense que c'est très intéressant que notre discussion se positionne dans ce contexte-là. À tout de suite, tout le monde. On a Yasmine avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Félicitations pour votre émission.
Merci.
J'aime bien vous écouter. Je vais partir de mon cas à moi.
Oui.
Moi, je suis ingénieure de formation. J'ai une maîtrise en gestion. J'ai 20 ans d'expérience. J'ai perdu mon emploi au mois de février, donc ça fait déjà 7 mois. Mm-hmm. Je cherche à temps plein des postes. J'envoie tous les jours. J'envoie mon CV à tous les jours. Je pourrais dire j'ai envoyé au moins 200 CV. J'ai eu quelques appels de postes juniors qui m'appellent parce que, bon, un gros CV de même, c'est à payer pas cher, c'est intéressant. Des postes à mon niveau qui sont bien payés. J'ai reçu mon premier appel aujourd'hui, OK? Bombardier, pour pas la nommer.
Ouais.
La personne des ressources humaines m'a dit qu'elle a reçu 75 CV.
Ah, j'imagine.
Au Québec, là, on est beaucoup de chefs, pas assez d'Indiens. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde surqualifié, mais les emplois, là, comme je vous dis, moi, je fais une recherche à temps plein 4-5 heures par jour depuis 7 mois. Puis j'envoie des postes, mais c'est tous des jobs juniors. Beaucoup d'entreprises m'ont dit, ah, ben nous, on préfère prendre quelqu'un junior puis le
former ou le faire monter plutôt que payer quelqu'un, c'est ça, hein? Ouais.
C'est ça. Donc, beaucoup de monde m'ont dit, j'ai reçu plein de courriels de dire votre candidature n'a pas été retenue,
ouais,
parce qu'ils ont trop de CV. J'ai parlé à des gens dans des entreprises, m'ont dit ils ont reçu 150-200 CV. Puis après ça, j'avais vu un commentaire du président de Chocolat Favori,
ouais,
qui avait posté sur LinkedIn comme quoi que lui, il avait reçu seulement 3 CV. Ben oui, mais c'est ça, c'est... Les gens, ils sont surqualifiés aussi pour les jobs qui sont sur là. Puis le plein emploi, c'est parce que, étant donné qu'il y a plein de jobs pas payants, ben les gens vont pas rester chez eux à rien manger, ils vont aller travailler. Fait que oui, il y a du chômage, mais les gens sont pas au poste aux qualifications qu'ils ont.
Je comprends.
C'est mon commentaire que je voulais faire aujourd'hui.
Êtes-vous découragée, Yasmine?
Ah oui. C'est décourageant parce que tout le monde sait l'expérience que tu as, les compétences que tu as, puis les gens entendent le contrat. Pénurie de main-d'œuvre, plein,
ouais,
de
c'est ça.
Ben, c'est pas normal. Ben oui, c'est normal parce que la compétition, actuellement, les gens qui sont déjà en emploi vont quand même envoyer leur CV parce qu'ils veulent avoir mieux que qu'est-ce qu'ils ont.
Et donc, ça veut dire qu'on paye pas, on paye pas, on veut pas payer pour l'expérience au Québec, vous pensez?
On veut pas payer. J'ai eu des compagnies qui m'ont appelé puis ils veulent m'offrir la moitié du salaire qu'est-ce que j'avais là.
Ouais, c'est ça. Vous êtes à combien de l'heure ou mettons à la, je sais pas, là, votre salaire annuel envisagé?
Mon salaire annuel c'était 130 000.
Mm-hmm.
Je sais pas c'est quoi à l'heure, mais comme je dis, c'est que les entreprises, pour payer ce salaire là, il faut que tu sois extrêmement top.
Ouais. Tout à fait. Ben, je vous souhaite bon courage, bonne continuation, puis on vous souhaite de trouver l'emploi qui va vous plaire et au salaire que vous méritez. Merci beaucoup, Yasmine. Martine?
Ben, écoutez, c'est sûr que madame, j'imagine, je sais pas si elle était à Montréal aussi, parce que la situation à Montréal est différente dans la région, mais c'est sûr qu'à 130 000 $ on est dans des classes salariales là, qui sont beaucoup plus élevées que le salaire moyen dans la plupart des industries. Là. Donc, c'est clair que... comme elle dit, mais moi, je pense que... Et c'est là où elle a raison de dire qu'elle se retrouve en situation où elle est comme un peu surqualifiée par rapport aux besoins du marché du travail. Puis, ce qu'on constate, c'est que nos
entreprises... Mais je pense qu'on paye pas pour l'expérience. Je pense que c'est ça le problème.
Non, moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que non, surtout pas dans la situation dans laquelle on est. Avec un taux de chômage là, dans des régions qui est en bas de 4 % là, les entreprises, ils augmentent les salaires puis ils s'arrachent les travailleurs. Ils n'ont pas le choix de
payer. C'est ce que je m'en allais dire. Moi, là, je suis mandatée pour trouver du travail à des gens. Les entreprises m'appellent. Puis toutes mes postes, là, c'est toutes du 100 000 et plus que je cherche. Là. Puis c'est pas évident à trouver. Là. Mm. Puis il y en a plein de jobs à 100 000 et plus, là, parce que moi, mes mandats, c'est tous de ça. Là. Puis c'est difficile.
Yasmine, appelez Jessica.
On a de la difficulté. Puis c'est vrai qu'en région, moi, là, j'ai des postes en région, là, puis c'est tous du 100 000 et plus, là, avec des conditions.
OK, mais c'est parce que le monde ne veut pas aller en région?
Ben,
c'est ça.
On est prêt à payer les déménagements, on est prêt à payer. Il y a plein de choses, mais c'est ça. Ouais.
Mais ça, c'est un bon point, je pense, Maxime, la compensation latérale, si on veut. Ouais. Je peux donner un exemple dans le secteur chez, le secteur des startups. On recherche des gens comme Yasmine, des gens qui ont énormément d'expérience, mais c'est sûr que
vas-tu lui donner 130 000 $?
Souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a une autre forme de compensation qui peut, par exemple,
peut
des options.
Des parts d'entreprise.
Oui, c'est ça, des options. Donc, il y a une réduction du salaire, mais en contrepartie, il y a un gain potentiel encore plus gros.
Oui.
Donc, je pense que tu sais, il y a façon de voir ça aussi d'un côté plus latéral.
Oui, tout à fait. On a Joanne avec nous. Bonjour, Joanne.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Moi, je suis gestionnaire. Bonjour. Premièrement, félicitations encore pour votre émission.
Merci.
Écoutez, moi, je suis une gestionnaire d'entreprise. On est spécialisée, c'est une firme de génie conseil spécialisée à aider les entreprises au niveau des aides gouvernementales. Donc, exemple, les crédits d'impôt, recherche et développement, CDAE et d'autres types d'aides gouvernementales. Mmh. Et on a besoin d'expertise technique telle que des ingénieurs. Et c'est très difficile actuellement de trouver des ingénieurs. On a besoin des ingénieurs en informatique et dans le domaine chimique. Alors, écoutez, j'envoie l'invitation à tous. Ceux qui sont intéressés, disponibles. On cherche tant le jeune qui sort de l'université que la personne qui peut avoir 50 ans et plus qui a de la difficulté à se trouver un emploi. Alors, nous, on va les former, on va les encadrer. On a beaucoup d'avantages sociaux, plan de pension.
Avez-vous un numéro de téléphone pour les gens là, qui disent « Ouh, j'ai envie d'aller là, moi ».
Oui, exact. Ben, le numéro, c'est 1-888-PREMTECH. PREMTECH comme premier, PREMTECH. Donc, 1-888-773-6832.
773-6832. 1-888-773-6832. PREMTECH. Bon, ben merci beaucoup, Joanne. Moi, j'adore ça quand on fait du jumelage. On sait jamais, ça donne toujours quelque chose. Tu sais, si je me dis, si on a changé la vie d'une personne aujourd'hui, c'est déjà ça de prix.
Je pense que Joanne, elle tape sur un bon point. Ouais. En fait, justement, la pénurie au niveau des technologies, des développeurs web ou en informatique, il y a beaucoup de demandes, mais il n'y a pas assez d'offres. Donc, ce qui peut faire, c'est une belle opportunité, je pense, pour beaucoup de personnes d'aller dans ces secteurs-là pour avoir un bon salaire. Puis aussi, justement, dans le futur, les nouvelles technologies, ben, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus présent dans nos vies.
Et voilà. Et en même temps, il y a des secteurs. Puis là, j'ai Jacinthe qui m'écrit. C'est une infirmière clinicienne. Il y a des secteurs, j'allais dire, qui sont vraiment pénibles, là, où les gens ont de la misère. Elle dit, moi, je suis au dernier échelon salarial de ma profession. J'ai quitté le soin à domicile car les conditions étaient pénibles. Vraiment, là.
Dans la santé.
Vraiment,
oui,
là. Puis elle dit, franchement, elle dit, j'ai quitté pour rester fidèle à mes valeurs. En entrevue, on me demande mon échelon salarial. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, on me voudrait, mais on veut pas payer mon expérience. On dit, ben on aimerait ça que vous veniez travailler, mais là, vous, vous coûtez trop cher. Mais c'est ça qu'à un moment donné, là. C'est ça, c'est effectivement ça le nœud du problème. Alors, ce matin, c'est ce qu'on dit, des jobs payants, des emplois payants, mais des emplois qui méritent qu'on te paye ce prix-là. Là, ce que je sens, là, au moment de la discussion, c'est que, oui, on a ces emplois-là, ils existent, mais on veut pas payer le monde. Selon
ça.
Les secteurs.
Ouais,
ça, je vois, il y en a deux qui sont pas d'accord.
Parce que la santé, c'est pas pareil, là. C'est le secteur public. Oui, c'est balisé par un paquet de normes.
Mais dans les entreprises privées, Isabelle, là, je veux dire, sincèrement.
C'est le contraire
là,
qu'on entend.
Oui, c'est ça.
Moi, j'étais à Trois-Rivières la semaine passée. J'étais à Trois-Rivières. J'ai visité des entrepreneurs, là, des PME de Trois-Rivières. tout le monde me dit, Martine, on a augmenté nos salaires, là. Hey, on les offre, là, des 30, 35 piastres à l'heure.
Fait que c'est un problème montréalais, vous diriez?
Ben, c'est sûr que le taux de chômage est plus élevé à Montréal. Ouais. C'est sûr qu'à Montréal, c'est pas la même situation qu'ailleurs dans les régions. Mais même à Montréal, on la vit, la pénurie, là. Maxime, il la vit dans son secteur.
En techno.
On est souvent en compétition contre les grandes entreprises.
D'ailleurs, je veux que tu parles de ton exemple à Québec, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de start-up et surtout en techno qui commencent à regarder à l'extérieur de Montréal. Moi, je pense qu'on est on vit un problème aussi dans la grande région de Montréal. Là, tout de suite, tout le monde. Bon, alors, il y a pas mal de monde qui veulent à nouveau l'information de Premtech. Joanne nous a téléphoné pour nous dire qu'il cherchait toutes sortes de travailleurs assez spécialisés. 1-888-773-6832. J'ai Caroline aussi qui m'écrit. Elle dit, on cherche, nous, à Saint-Basile-le-Grand, sur la rive sud de Montréal, on cherche des chauffeurs de camions pour livraison, représentants sur la route commis de bureau, commis entrepôt. C'est Beaulieu-Lamoureux à Saint-Basile-le-Grand. Je vous le dis, là, on va faire une foire d'emploi, nous, à cette émission-là. Non, mais sincèrement, on en parlait avec mes recherchistes, puis on disait peut-être que régulièrement, on devrait faire ça. On met des gens en contact, puis bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça peut faire œuvre utile.
J'ai une idée d'affaires pour ça.
Oui, vas-y, mais je voulais, Maxime, que tu parles de ce qui se passe justement dans les startups puis en techno, parce que tu me disais, ben, il y a de plus en plus d'entreprises qui, voyant là, que ça devient un peu trop compliqué, cher aussi à Montréal, vont aller à Québec, entre autres, au quartier Saint-Roch. Là, il commence à avoir quelque chose.
Ben, c'est ça, il y a un phénomène dont je suis témoin. C'est ça, qu'il y a des startups qui décident de déménager à Québec, puis justement de recruter là-bas. Je pense qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre qualifiée à Québec. Puis aussi, le gouvernement en place clairement essaie d'attirer les startups puis les jeunes pousses à Québec. Puis je pense que peut-être que les autres villes de région devraient s'inspirer de ça pour essayer d'attirer justement.
Si tu me permets, Maxime, oui. Québec, c'est parce qu'il y a un projet pilote aussi sur la main-d'œuvre. Justement, il y a les travailleurs étrangers qualifiés comme non qualifiés ils ont une voie rapide pour s'en venir s'établir dans la région de Québec.
Ouais, c'est important, ça. Réduire la barrière à l'entrée.
On va parler à un moment, mais il y a Eric qui m'écrit, arrêtons de penser aussi je trouve ça intéressant ce qu'il dit. Arrêtons de penser qu'un salaire de 30 ou 35 $ de l'heure, c'est élevé. Un plombier, électricien ou frigoriste fait plus que ça sur la construction. 30 $ de l'heure, là, c'est 60 000 par an. On vira pas fou. Il a raison, Eric. Je trouve. Il y a Eric. Normand, bonjour. Vous êtes un retraité de la banque. Normand, vous avez travaillé dans l'industrie bancaire?
Oui, tout à fait. Je suis un retraité depuis peu de temps et je me questionnais sur, je ne sais pas lequel de vos intervenants parlait d'un salaire moyen de 25 $ de l'heure. J'ai peine à croire ça, sortant d'un milieu qui est relativement bien payé et où, dans notre industrie, le salaire moyen n'est même pas à 25 $ de l'heure. Et l'autre chose qui est importante, c'est que quand les banques, par exemple, donnent leurs statistiques au niveau des salaires moyens, évidemment, on donne toujours les salaires moyens en ajoutant les bénéfices marginaux. Et cette partie-là, exemple, un employé gagne 30 000 par année, je lui donne 30 % de bénéfices marginaux, ça fait 39. Mon salaire inclut ce 9 000 $-là, ce qui fausse un peu les statistiques.
Je comprends. Martine Hébert, Hébert de la Fédération de l'entreprise indépendante.
Les statistiques que j'ai, c'est les statistiques de Statistique Canada, les dernières données là, qui sont sorties annuelles. Et ça, c'est le salaire brut. Là. C'est pas la rémunération globale. C'est juste le salaire horaire moyen. Dans les finances, assurances, l'industrie des finances et des assurances, là, il était à 29 et 23 $ au 31 décembre 2017. Donc, c'est vraiment du salaire tout court, là, Normand.
Oui, mais bon, les moyennes...
C'est dans notre industrie.
Oui, non, c'est sûr, mais c'est toujours délicat avec les moyennes. Les moyennes, ça veut dire qu'il y en a un qui fait 60, puis il y en a un qui fait 10, puis là, tu peux dire, finalement, ça fait 60, divisé par 2, le salaire moyen, c'est 30, mais dans la réalité, c'est pas vrai.
Non, mais quand même, oui, tout à fait, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des...
T'as pas la médiane.
Il y a des écarts. Ouais. Non, on n'a pas la médiane, il y a des écarts, mais la médiane, nous, on a fait l'exercice de calculer le salaire horaire moyen dans les PME et versus la médiane, puis on avait 1 $ de l'heure de différence. Fait que dans ces eaux-là, avec le bassin que Statistique Canada utilise pour estimer les salaires, on n'est pas dans une variation là, de 5 ou 10 $ de l'heure.
Mm-hmm. Merci, Normand. Bon, il nous reste une minute. Demain, je vous rappelle, il y a la Foire nationale de l'emploi. C'est demain et après-demain. Ça va être à Montréal, à la Place Bonaventure. Puis vraiment, on le présente comme un raz-de-marée d'emplois avec des milliers d'ailleurs d'entreprises qui viennent d'un peu partout. Jessica me disait, beaucoup de monde des régions qui vont venir.
Grimby, l'Abitibi, Drummondville, le monsieur l'a précisé, beaucoup, beaucoup de monde de région.
Qui vont venir essayer de trouver des travailleurs pour amener... C'est peut-être ça, finalement, qu'il faut regarder aussi, dire aux gens, si tu veux travailler, puis payer. Ouais. Comme
le plus gros malheur, par exemple, c'est que c'est souvent des entreprises ou des plus grandes entreprises qui ont plus de moyens. Fait que ça veut dire qu'eux autres, ben, ils vont en tirer parce qu'ils ont des bons, ils ont des emplois, effectivement, avec des meilleurs salaires.
Fait que, de là que le support gouvernemental vient crucial pour les jeunes pousses, justement, pour attirer de la main-d'œuvre qualifiée.
Ouais, les jeunes pousses étant les start-up.
Exactement.
C'est ça. Merci beaucoup à tous les trois. Ça a été fort intéressant. C'était toujours un sujet là, qui fait beaucoup jaser. J'ai tellement de courriels. On reviendra là-dessus. Intéressant l'emploi en région. On fera une discussion juste là-dessus.
Très intéressant.
À tout de suite, tout le monde. On se retrouve après les nouvelles.